Bonjour à tous. Je voudrais commencer par vous demander de réfléchir à quelque chose d'important. Vous aurez tous des idées différentes, mais je voudrais que vous preniez un moment pour réfléchir à un aspect du christianisme qui vous vient à l'esprit. Un aspect important. L'une des principales doctrines. Réfléchissez un instant. Ce qui me vient à l'esprit, c'est peut-être la foi. Une doctrine importante. Peut-être l'amour. Un très grand sujet. Vous n'avez peut-être pas pensé à l'un ou l'autre de ces sujets. Peut-être que la justice vous vient à l'esprit. Peut-être pensez-vous à la grâce. C'est un très grand sujet dans la Bible. La loi, la repentance, le pardon, la vie éternelle. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est écrire cette chose qui est importante pour vous, et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est une doctrine de Dieu. J'aimerais que vous preniez un moment pour les noter. Tous ces éléments sont importants pour vivre selon le mode de vie de Dieu. Cependant, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est tellement vital pour chacun d'entre eux que sans eux, sans cet élément, vous ne pourriez vivre aucun de ces éléments. Vous ne pourriez pas en faire l'expérience comme vous le faites actuellement. Encore une fois, n'importe lequel de ces éléments. Aucun de ces éléments ne pourrait faire partie de nos vies à cause de ce seul élément. En fait, nous ne pourrions pas être chrétiens sans cela. Je ne pourrais pas être un fils de Dieu, vous ne pourriez pas être une fille ou un fils de Dieu sans cet élément. Qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas encore vous le dire. Tournons-nous vers le psaume 1, 47 parce que je vais préparer le message et je vais prendre un peu plus de temps que d'habitude parce que cette préparation est directement liée au sujet, le sujet monumental que nous allons aborder aujourd'hui, mais c'est aussi ma façon de contribuer à la connaissance que nous avons acquise ces dernières années sur qui est Dieu le Père et qui est Christ. Et à quel point il est devenu important dans nos vies. Nous allons nous tourner vers le psaume 1, 47. Encore une fois, pour préparer le message. Nous allons commencer au premier verset. Il dit, Louez l'Éternel, car il est bon de chanter les louanges de notre Dieu, car c'est une chose agréable, et la louange est agréable, c'est-à-dire convenable. C'est beau. C'est beau et approprié de louer notre Dieu. Au verset 4, il est dit, qu'il connaît le nombre exact d'étoiles dans l'immense univers que nous ne pouvons même pas imaginer. Il les appelle toutes, chacune de ces étoiles qui existent, les planètes, les systèmes solaires, il peut nommer chacune d'entre elles. Au verset 5, il est dit, Grand est notre Seigneur et grand est son pouvoir. Puis le verset 5 culmine en disant, Sa compréhension, son intelligence est infinie. Frères et sœurs, il n'y a ni commencement ni fin, et il est difficile de comprendre cela, à l'intelligence de Dieu, à sa connaissance. C'est infini. Si le psalmiste, cette déclaration ne suffit pas, passons à Ésaïe. Lisons ce que demande Ésaïe. Il pose une question, mais en posant ces questions, il fait en fait une déclaration puissante. Ésaïe, chapitre 40. Ésaïe, chapitre 40. La compréhension de Dieu, sa connaissance est infinie. Dans les 12 premiers versets, il parle de la grandeur de Dieu, puis, au verset 13, Ésaïe commence une série de ce que j'appellerais des questions rhétoriques. Des questions qui, en fait, font une déclaration puissante sur la compréhension qu'Ésaïe a de ce grand Dieu que nous servons. Il dit au verset 13, Qui a dirigé l'esprit ou la pensée du Seigneur, qui l'a instruit en tant que son conseiller? Avec qui Dieu a-t-il pris conseil, et qui l'a instruit, qui lui a enseigné le chemin du jugement, qui lui a enseigné la connaissance, et qui lui a montré la voie de l'intelligence? Quelle puissante série de questions qui couvre à peu près tout ce qui concerne la connaissance, la compréhension infinie de notre Dieu. Personne, plutôt que, je pense que vous serez d'accord avec moi, ne dirige Dieu. Personne ne conseille Dieu. Personne n'enseigne à Dieu. Nous savons que Dieu est entouré d'une armée, 24 anciens, sans savoir quels échanges ils ont. Je suis sûr qu'il parle à Dieu régulièrement, mais en fin de compte, Dieu n'a besoin du conseil de personne. Sa connaissance est infinie. Il ne peut pas être instruit, il ne peut pas être enseigné, il ne peut pas comprendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Il suffit de méditer là-dessus. Lorsque nous nous sentons bien dans notre peau, méditez sur ce genre de verset. Décrivez la puissance de la connaissance de Dieu, la compréhension qu'il a. Encore une fois, Dieu n'apprendra jamais rien de personne. Il est Dieu. Il peut découvrir, parce que nous sommes des agents moraux libres, qui nous sommes lorsque nous sommes mis à l'épreuve, mais le plus souvent, Dieu crée des circonstances dans nos vies qui nous révèlent ce que nous ne savons pas sur nous-mêmes. C'est le Père. Sa connaissance est infinie, et il y a verset après verset après verset, j'aurais pu passer tout le message à passer en revue l'intelligence du Dieu que nous servons. Quand est-il du Christ? Quand est-il de lui et de sa base de connaissance, de sa puissance intellectuelle? Colossiens, chapitre 1. Allons-y. C'est le Père. À partir du verset 9, l'apôtre Paul dresse une liste de prières pour l'église de Colosse, puis au verset 13, l'apôtre Paul dit, « Rendons grâce au Père », et il dit, « qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé ». Le sujet devient alors Christ. L'accent est mis sur lui, et lisons ce que dit Paul. Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature. Qui? Toujours à propos du Christ, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature, car c'est par lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre. Car c'est par lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce que nous pouvons voir et ce que nous ne pouvons pas voir. Il s'agit de ce que nous pouvons voir et de ce que nous ne pouvons pas voir. Qu'il s'agisse de trône, de domination, de principauté ou d'autorité, tout a été créé par lui, Christ, et pour lui. Verset 17. Il est avant toute chose, et c'est par lui que toute chose consiste. Maintenant, laissez cela mariner un peu dans votre esprit. Si l'intelligence de Dieu le Père est infinie et que tout ce que nous pouvons voir et ce que nous ne pouvons pas voir a été fait par Christ, où le situeriez-vous en termes d'intellect, d'intelligence, de compréhension, de connaissance? Peut-on le conseiller? Jean 1, 3. Vous n'êtes pas obligé d'écrire là, mais il est dit, « Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. » Au verset 3, il est dit, « Tout a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. » Au verset 10, il désigne le monde. Il a fait le monde, mais le monde ne l'a pas reçu. C'est encore du Christ qu'il s'agit. Si nous faisons une pause et que nous relions les versets que nous lisons dans Colossiens 1 et Jean 1 avec le psaume 1, 47, cela nous dit essentiellement que Christ, en tant que Verbe, a créé chacune des étoiles et des planètes de cet immense univers que le Père peut compter et nommer. Il s'agit là d'une collaboration d'êtres intelligents. Nous avons le privilège de comprendre, frères, que dans la Genèse 1, lorsqu'il est dit « Faisons l'homme à notre ressemblance et à notre image », nous savons de qui il s'agit. Par Christ, toutes ces choses existent, et le mot « consiste » signifie « mettre en place »,« assembler ». En d'autres termes, tout ce que nous pouvons voir, vous qui êtes assis sur votre chaise, Vous existez et continuez d'exister à cause de Jésus-Christ, à cause du Christ. Christ avait une intelligence, une connaissance et une compréhension parfaite. Tous les versets que je viens de lire font référence au Christ lorsqu'il était la parole, mais qu'en est-il du Christ en tant qu'être humain? Là, nous avançons. Passons au chapitre 2 de Luc. Luc, chapitre 2. Qu'en est-il de Jésus-Christ, Dieu en chair et en os? C'est un récit que nous connaissons tous. Jésus, un jeune garçon de 12 ans, est emmené à Jérusalem pour la Pâque, comme on le fait toujours. Il s'y rend avec sa mère, Marie, et son père, Joseph. Nous savons que lorsqu'ils ont quitté la Pâque, les jours de la Pâque, et qu'ils sont repartis avec la caravane, ils ne se sont pas rendus compte que Jésus était perdu. Donc, après 3 jours de recherche, nous reprenons au verset 46. Il est dit, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, pas n'importe qui, les docteurs de la loi, les élites religieuses de l'époque. Il a 12 ans, mes frères, et vous entrez, et tous deux l'écoutent et lui posent des questions. Au verset 47, la scène est décrite comme suit, tous ceux qui l'écoutaient étaient frappés de stupeur. Et ce mot signifie stupéfait, étonné de sa compréhension et de ses réponses. Je peux donc être d'accord, je pense que nous pouvons être d'accord à ce stade. Je pourrais dire tel père, tel fils, cela n'a pas beaucoup changé. Il a 12 ans. Il émerveille les médecins par ce qu'il est capable de dire, et à en juger par l'apparence, ce sont les médecins qui posent des questions au jeune Jésus. On peut donc se demander qui est le maître et qui sont les élèves dans cette situation. Jean, chapitre 2. C'est Jésus à l'âge de 12 ans. Jean chapitre 2, verset 23, plus tard dans son ministère. Encore une fois, la scène est la Pâque à Jérusalem. Il était là le jour de la fête et il est dit, beaucoup crurent en son nom en voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne s'engagea pas avec eux, parce qu'il connaissait tous les hommes. Ce mot tous est pos. Il connaissait tous les hommes. Il connaissait tous les hommes. Il les a créés, et il n'avait pas besoin qu'on lui parlât de l'homme, car il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Non seulement Jésus-Christ connaissait les hommes, mais il savait ce qu'il y avait en eux. Voilà le genre de connaissance étonnante qu'avait Jésus-Christ, Dieu en chair. Il est clair que Christ n'a rien eu à apprendre de personne sur l'humanité. Je ne pense pas que Christ ait besoin d'apprendre quoi que ce soit sur moi ou sur vous si vous y réfléchissez. Il sait tout ce qu'il y a à savoir sur vous et moi. Il n'y a rien que je puisse lui apprendre sur moi qu'il ne sache déjà. Je compte sur lui pour m'apprendre qui je suis. Hébreux, chapitre 5. Les apôtres le savaient. Les gens qui étaient autour de lui le savaient. Dieu l'a enregistré pour nous afin que nous le sachions aussi. Christ a tout créé. Il connaissait tous les hommes. Il savait ce qu'il y avait en eux. Il le savait alors. Il le sait aujourd'hui. Posons donc une question avant de plonger dans Hébreux 5. Y a-t-il quelque chose que Christ devrait apprendre? Je veux dire que c'est une question juste. Et s'il y avait quelque chose que Dieu en chair devait apprendre pendant qu'il était sur terre? Si nous pouvions trouver cette chose que même Christ a dû apprendre, quelle importance pensez-vous que cela aurait pour nous dans nos vies? Si Christ a dû apprendre quelque chose, combien plus nous? Je pourrais poser la question de cette manière. Et si nous pouvions mettre le doigt sur l'élément le plus crucial, le plus absolu, le plus important de sa mission sur la planète Terre? C'est ce que je propose de faire. Hébreux chapitre 5, verset 1. Tout souverain sacrificateur, est-il dit ici, choisi parmi les hommes, a été ordonné pour les hommes et pour les choses qui concernent Dieu, afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Maintenant, pourquoi a-t-il été choisi, le souverain sacrificateur, parmi ses propres hommes, les Lévites? Parce qu'il peut avoir de la compassion, comme il est dit au verset 2, pour les ignorants et pour ceux qui sont à l'écart. En d'autres termes, il était un homme comme eux, c'est pourquoi il a été choisi. Il pouvait comprendre et il est dit ici, plus loin, parce qu'il est lui-même atteint d'infirmité. Il est tout aussi humain que les gens pour lesquels il offrait des sacrifices. Verset 3, c'est pourquoi, comme le peuple qu'il sert, il offre pour lui-même des sacrifices pour les péchés. Encore une fois, il est humain. Il a ses faiblesses, tout comme les gens qu'il devait servir, et les choses de Dieu. Et personne, dit le verset 4, ne s'approprie cet honneur. En d'autres termes, personne ne peut devenir grand prêtre par ses propres efforts. Seuls ceux qui sont appelés par Dieu, comme Aaron, le sont. Verset 5. De même, Christ ne s'est pas glorifié lui-même en étant fait souverain sacrificateur, mais c'est Dieu qui l'a fait. Dieu l'a fait. Il lui a donné cette position. C'est Dieu qui lui a dit, « Tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. » Frères et sœurs, le mot « fils », comme dans le verset précédent que nous avons lu, prend une majuscule. Il est donc clair qu'une relation spéciale a été établie entre le Verbe, celui qui a créé l'être qui a créé toutes les choses que nous voyons autour de nous et celles que nous ne pouvons pas voir. Cette relation a été établie entre Christ et Dieu en ce jour. À un moment donné, au cours d'une journée de notre vie, ceux qui ont été baptisés, c'était notre moment d'aujourd'hui. C'est le jour où nous sommes entrés dans une relation spéciale en tant que fils et filles de Dieu, tout comme Christ. C'était notre moment d'aujourd'hui, mes frères, nous nous efforçons d'aller au-delà des nombreux, nombreux, nombreux qui sont venus avant nous et qui ont été baptisés. Nous nous efforçons d'aller plus loin et d'atteindre ce qu'aucun autre être humain ne pourra atteindre, à savoir entrer dans la famille des 144 000, les premières racines de Dieu. Alors, que nous faut-il pour entrer dans cette famille, la famille de Dieu, pour être les premiers? Tout se résume à l'élément auquel je faisais référence au début de l'introduction. C'est maintenant qu'intervient, à mon avis, le changement le plus spectaculaire de toute l'existence du Christ, et si ce changement s'est produit dans sa vie, il s'est également produit dans la nôtre. Pour quiconque prétend être chrétien, nous devons faire l'expérience de ce même changement spectaculaire dans notre propre vie. De quoi s'agit-il? Rappelez-vous qu'il était la parole de Dieu dès le commencement, qu'il a créé toutes choses, les vies humaines, l'univers est soutenu par lui. Encore une fois, qui pourrait prétendre qu'il n'avait pas une connaissance parfaite, un conseil compréhensif comme Dieu? Mais au verset 7, « Frères, dans les jours de sa chair, lorsqu'il adressait des prières et des supplications, avec de grands cris et des larmes, à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, il fut exaucé par ce qu'il craignait. » Verset 8, « Bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance. » L'élément le plus critique, le plus crucial, absolument le plus important de la vie physique du Christ était l'obéissance, sans exception. Vous vous souvenez des mots que vous avez écrits sur votre feuille? Sans cet élément dans votre vie, vous ne pourriez pas faire l'expérience de ce que vous avez écrit, que ce soit l'amour, il est intrinsèquement lié à l'obéissance. La foi est intrinsèquement liée à l'obéissance. La guérison est intrinsèquement liée à l'obéissance. La perte de Dieu, l'éducation des enfants, le mariage, toutes les grandes doctrines de l'Église de Dieu. Tout ce que nous savons est intrinsèquement lié à l'obéissance. Philippiens, chapitre 2. C'est un verset que nous avons lu de nombreuses fois. Au verset 5. J'espère qu'il vous parlera avec force. Paul leur dit, que cette pensée soit en vous. Combien de fois avons-nous lu cette phrase? Que cette pensée soit en vous, qui était aussi dans Christ Jésus, Dieu en chair, qui, ayant pris la forme de Dieu, n'a pas cru devoir se dérober pour être égal à Dieu, mais qui s'est fait lui-même une piètre réputation, il s'est fait lui-même une piètre réputation. Il s'est dépouillé de son statut de Dieu pour devenir un être humain. Il s'est dépouillé des attributs de ce qu'il était en tant que parole, et il a pris la forme d'un serviteur, il a été fait à la ressemblance des hommes, et ayant été trouvé à la manière d'un homme, il s'est humilié et s'est fait. Voilà, frère, obéissant jusqu'à la mort. C'est une déclaration extraordinaire concernant le Créateur de toutes choses. Il devait devenir quelque chose et cette chose était l'obéissance jusqu'à la mort, même par la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Rappelez-vous, il a fait tout cela, et que toute langue, verset 11, confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi, frères, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons avoir cet état d'esprit. Nous devons apprendre l'obéissance. Telle était sa mission. Nous devons devenir obéissants comme Christ. C'est notre mission. Si nous voulons nous aussi devenir comme Dieu, cela doit être notre objectif, frères, chaque jour. Apprendre à devenir obéissant. Plus facile à dire qu'à faire, et certains d'entre nous, heureusement, n'ont pas à être obéissants jusqu'à la mort et la mort par la croix. C'est la pire sorte de mort que l'on puisse connaître. Je ne diminue pas le sacrifice du Christ. J'élève l'obéissance dont il a fait preuve au cours de cette expérience. Certains d'entre nous devront être obéissants jusqu'à ce que le royaume vienne. Ce n'est pas si mal. D'autres ont terminé leur formation récemment, en s'efforçant d'obéir chaque jour au mode de vie de Dieu. Frères et sœurs, ce n'est qu'alors que nous pourrons espérer que nos exemples d'obéissance rejoindront l'exemple parfait d'obéissance du Christ et serviront les générations futures, peut-être avant le royaume et dans le royaume, si elles veulent elles aussi avoir cet esprit, l'esprit du Christ, un esprit d'obéissance, de devenir obéissante à ce grand Dieu. Nous allons examiner l'obéissance et ce qu'elle exige, frères, aujourd'hui. J'ai dit que ce serait un long exposé et nous allons utiliser quelques exemples. C'est dire l'importance de l'obéissance pour Dieu. Nous allons le voir dans notre marche chrétienne. L'obéissance est primordiale dans ce mode de vie. Nous l'avons entendu à maintes reprises. Monsieur Armstrong a enseigné que le gouvernement est tout, et c'est certainement le cas, et Monsieur Pack nous a enseigné et a continué à dire que le gouvernement est tout. Frères et sœurs, si le gouvernement est tout, alors l'obéissance à ce gouvernement et à Dieu est suprême. Pensez-y. Le gouvernement est tout. Par conséquent, l'obéissance à ce gouvernement et à Dieu est suprême dans nos vies. Nous pouvons avoir jusqu'à présent des opinions différentes sur ce qu'est l'obéissance, sur ce à quoi elle ressemble et sur ce à quoi elle devrait ressembler dans nos vies de mari, de femme, d'employé, d'étudiant, d'enfant, de parent, mais en fin de compte, la seule opinion qui compte, c'est celle de Dieu. C'est pourquoi l'obéissance est omniprésente dans la Bible. Permettez-moi de poser une autre question, je pense, spectaculaire. Par quel moyen, et je connais déjà la réponse, mais je dois quand même la poser, mais par quel moyen l'un d'entre nous aurait-il pu devenir juste? Nous parlons de justice. Comment l'un d'entre nous a-t-il pu devenir juste? Est-ce grâce à notre foi? Par la grâce? Par nos œuvres? Les trois. Autre chose. Romains, chapitre 5. Romains, chapitre 5. Quelques pages plus loin. Ce que Paul fait ici avec les Romains, c'est opposer deux personnes. Il oppose les actions d'un homme, Adam, et les conséquences de ses actions, et Christ, l'autre homme, et les conséquences des actions qu'il a entreprises. Au verset 15, il est dit, « Par l'offense d'un seul homme, c'est-à-dire Adam, plusieurs sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don par grâce, qui se fait par un seul homme, Jésus-Christ. » Verset 17, « Car si, par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par un seul, c'est-à-dire Adam. À plus forte raison ceux qui reçoivent en abondance la grâce et le don de la justice. » La justice, comme nous le voyons ici, est un don. Elle régnera dans la vie par un seul Jésus-Christ. C'est pourquoi, comme par l'offense d'un seul le jugement est venu sur tous les hommes pour la condamnation, de même, par la justice d'un seul, le don gratuit est venu sur tous les hommes pour la justification. C'est le même mot racine pour justice, de la vie. Verset 19, car, comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été faits pécheurs, sont devenus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Avez-vous déjà considéré cette partie de l'Écriture dans le contexte de l'obéissance du Christ, de notre justice et du fait d'être rendu juste? Pensez-y. Réfléchissez-y. Je répète que je n'aurais jamais pu devenir juste. Il n'y avait aucune chance que je devienne juste si ce n'était grâce à l'obéissance de Jésus-Christ. Je n'avais aucune chance. Aucun d'entre nous n'avait de chance. Il est dit que la justice est un don, si vous le regardez à nouveau, en réfléchissant. Eh bien, ce don n'a pu être accordé que parce que, encore une fois, Christ a obéi au Père. Mais voici la clé. C'est par notre obéissance que nous conservons cette justice, que nous la gardons dans notre vie. Quelqu'un vous offre un cadeau, quelque chose que vous chérissez. Vous faites tout ce que vous pouvez pour le garder, pour le protéger. Notre obéissance protège la justice, le don de la justice que Dieu nous a donné par l'obéissance de Jésus-Christ. La désobéissance, en revanche, pourrait nous l'enlever. Nous allons donc établir un parallèle avec Christ dans notre propre vie. Nous pouvons avoir une grande intelligence ou non. Jean voit qu'il lève les yeux au ciel. Nous pouvons accumuler des connaissances sans précédent, des certificats, des diplômes, des licences, des maîtrises, des doctorats, nous pouvons tout accumuler. Certains d'entre nous n'ont rien de tout cela. Cela n'a pas d'importance. Nous pourrions atteindre une compréhension parfaite sans obéir à Dieu. Vous savez ce que cela fait de nous? Sans obéissance à Dieu, tous ces titres, toute cette connaissance, tout l'intellect que nous avons. Chapitre 2 d'Éphésiens, sans obéissance, je vais vous dire ce que cela fait de nous. Deuxième verset. Autrefois, vous marchiez selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les enfants de la désobéissance. Frères et sœurs, le mot « enfant » implique un parent. Il n'y a rien d'extraordinaire dans cette déclaration. Satan est le père des enfants de la désobéissance. La plupart considèrent Lucifer avant qu'il ne devienne Satan. Avant de devenir Satan, je vais faire une suggestion, je pense qu'il était un peu plus intelligent que moi. En fait, je me risquerais à deviner que si nous combinons notre intellect dans cette pièce, il est probablement un peu plus intelligent que certains d'entre nous réunis, parce que dans Ézéchiel 28, 15, il est écrit, il était parfait dans ses voies depuis le jour où il fut créé. Il était parfait dans ses voies depuis le jour de sa création, mais qu'importait en fin de compte la beauté parfaite, les beaux cadeaux qu'il avait reçus ou l'intelligence. Qu'est-ce que tout cela peut bien nous apporter si nous sommes désobéissants? Si nous prenons ce que nous avons, les dons que nous avons reçus, et que nous désobéissons à Dieu, quelle importance? Sans obéissance à Dieu, nous sommes des enfants de la désobéissance, pour le dire ainsi, et nous courons le risque d'être exactement comme le prince des puissances des héritiers de ce monde. Je vais plaider cette cause. Je pense que Satan est moins préoccupé par le fait que nous lui obéissions. Je pense qu'il trouve plus de satisfaction à ce qu'un être humain désobéisse à Dieu. Je ne sais pas s'il se soucie que je lui désobéisse. Je sais qu'il est satisfait, qu'il se soucie que je désobéisse à Dieu parce que cela va dans le sens de ce qu'il est. Cela fait de moi un enfant qui a désobéi ou qui a agi comme il l'a fait par le passé. Jetons un coup d'œil au chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. Parcourons quelques chapitres. Verset 6. Que personne ne vous séduise par de vaines paroles. Car ces choses, et il se réfère au verset précédent, la fornication, l'impureté, la cupidité, la souillure sont énumérées ici, les paroles insensées, les plaisanteries, le fait d'être impudique, impur, ou d'être un idolâtre cupide, provoque la colère de Dieu sur les enfants de la désobéissance. On ne peut être plus clair. L'apôtre Paul dit essentiellement la même chose. C'est un message récurrent dans les lettres de Paul. En fait, je pense que Romains est le livre qui traite le plus de l'obéissance. Il pourrait s'agir du livre sur l'obéissance du Nouveau Testament. Passons au chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens. L'apôtre Paul dit aux Colossiens essentiellement la même chose, mais il ajoute à la liste que nous venons de lire. Verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont ici-bas. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 5. Mortifiez donc vos membres, l'impudicité, l'impureté, l'affection démesurée, la mauvaise concupiscence, et la cupidité, qui est l'idolâtrie, à cause de quoi la colère de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance. Encore une liste de péchés. Elle n'est pas exhaustive, mais elle est liée à la désobéissance et à la colère de Dieu. Nous pourrions parcourir le reste du Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Satan sait que la colère de Dieu n'est pas seulement réservée à lui et à ses démons, mais à tous les enfants de la désobéissance. Et comment sont identifiés les enfants de la désobéissance? Frères et sœurs, permettez-moi de simplifier les choses en ce qui concerne le péché. Chaque péché de la Bible que vous pouvez trouver ou chaque péché auquel vous pouvez penser est un acte de désobéissance envers Dieu. C'est aussi simple que cela. Je suis reconnaissante pour la grâce. Personne n'est parfait, mais c'est ce qu'est le péché. C'est un acte de désobéissance à ce grand Dieu que nous découvrons chaque jour un peu plus. Donc, si les enfants de Satan sont appelés les enfants de la désobéissance, alors les enfants de Dieu seraient considérés comme des enfants de l'obéissance. Les enfants de l'obéissance. C'est très simple. Vous tombez dans l'un des deux seaux. Et Christ, une fois de plus, a été le fils de l'obéissance par excellence. La norme que nous devrions viser, que nous devrions poursuivre. C'est le but. Tout ce que nous pouvons apprendre de lui en termes d'obéissance, faisons-le. Apprenons-le. La plupart des gens s'accordent à dire que la mort du Christ a permis à l'humanité de se réconcilier avec Dieu. Personne ne contestera ce point. Sa résurrection a ouvert la vie éternelle à toute l'humanité. Personne ne contestera ce point. Allons au chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens. Revenons-y. Éphésiens, Chapitre 5. Au verset 1. Soyez donc disciples de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et si je peux ajouter, permettez-moi d'ajouter le mot d'obéissance, chers enfants de l'obéissance, au verset 2, marchez dans l'amour, comme Christ nous a aimés, et s'est donné lui-même en offrande et en sacrifice à Dieu, pour être d'une agréable odeur. Si vous vous souvenez du verset 6, la colère viendra sur les enfants de la désobéissance. Ces deux versets que nous venons de lire sont donc les versets qui mènent à ce que nous avons appris sur la colère de Dieu qui vient sur les enfants de la désobéissance. Écriture après écriture après écriture, on parle du sacrifice du Christ pour nous, pour l'humanité, mais la plupart de l'humanité, y compris les variétés de christianisme qui existent, ont manqué l'élément le plus important de ce sacrifice. Nous allons nous servir d'un épisode de la vie du roi Saül pour illustrer ce point. Tournons-nous vers le 1 Samuel 15. Quel est l'élément le plus précieux qui manque en ce qui concerne le sacrifice du Christ qui nous a réconciliés avec Dieu? 1 Samuel 15, verset 1. Nous connaissons ce récit, mais nous allons le passer en revue. Verset 1. Samuel dit à Saül, « Le Seigneur m'a envoyé pour toindre roi sur son peuple, Israël. Pas le tien, celui de Dieu. Maintenant, écoutez la voix des paroles de l'Éternel. » Vous voyez le mot « écouter » tout au long de la Bible. On peut l'assimiler à « obéir ». Écoutez, prêtez l'oreille, gardez. Autant de mots associés à l'obéissance. Ainsi parle l'Éternel des armées. Verset 2, « Je me souviens de ce qu'Amalek a fait à Israël. Maintenant, allez frapper Amalek et détruisez tout ce qu'il possède. Ne l'épargnez pas, tuez hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, moutons, chameaux et ânes. » Verset 7, « Saül frappa les Amalécites, mais l'un des mots les plus dangereux de toute la Bible se trouve au début du verset 9. Saül et le peuple épargnèrent Agag, gardèrent les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleurs agneaux, et ce qui était bon, et ils ne les dévoyèrent pas par interdit. Il n'est pas nécessaire de lire le récit dans son intégralité, mais il est assez facile d'anticiper ce qui attend Saül à ce moment-là. Combien de personnes peuvent anticiper ce qui est sur le point d'arriver? Pas parce que vous l'avez lu, mais c'est assez facile. Dieu a donné des ordres et des instructions spécifiques par l'intermédiaire de son serviteur Samuel, et Saül n'a pas obéi. Vous pouvez donc imaginer ce qui va se passer pour résoudre le problème. Il doit se passer quelque chose, n'est-ce pas? Le problème, c'est que lorsque nous le faisons dans notre vie, il nous est plus difficile de l'identifier. Il est facile de voir quand cela va se produire ou quand cela attend quelqu'un, mais quand nous sommes dans la même situation, il nous est plus difficile de nous en rendre compte. C'est tout d'un coup évident pour d'autres personnes comme le roi Saül, mais pas aussi évident dans notre vie personnelle, mais si nous prenons du recul et que nous raisonnons humainement sur ce qui se passe ici, est-ce que cela a plus de sens? Épargner le roi Agag? Peut-être pas. En raisonnant humainement, aurait-il été préférable de garder tous les meilleurs bœufs et moutons et tout le reste pour les sacrifier à Dieu? Nous pourrions nous dire que oui, mais il y a une partie du problème, et Saül vous le dirait si vous lui posiez la question, en fait, nous allons lire qu'il le fait. Il était d'accord avec le plan de Dieu. Il l'a accepté. Il a accepté les instructions de Samuel. Vous savez ce que Saül pourrait dire d'autre? Qu'il ne faisait qu'améliorer une idée géniale. Je vais juste l'améliorer un peu, c'est une excellente idée, Samuel. N'oublie pas de remercier Dieu pour cette idée, je vais juste la peaufiner un peu, et je vais vraiment impressionner Dieu avec celle-ci. Donc, si nous appliquons superficiellement le raisonnement humain, qui est la nature humaine, c'est à peu près la même chose dans la plupart des cas, qu'y a-t-il de mal à cela? Au verset 10, la parole du Seigneur fut adressée à Samuel en ces termes, « Je regrette d'avoir établi Saül comme roi, car il s'est détourné de moi et n'a pas exécuté mes commandements. » Samuel fut tellement attristé qu'il cria à l'Éternel toute la nuit. Samuel a pleuré à cause de cette situation. L'essentiel, mes frères, c'est que Saül a désobéi à Dieu, et pas seulement à Samuel, comme nous le verrons tout à l'heure. Lui et ses subordonnés ont pris des décisions différentes. Ils allaient faire les choses un peu différemment de ce que Dieu avait ordonné. Si nous sommes des ministres de Dieu, nous ne devrions pas être offensés si quelqu'un désobéit à une instruction que nous lui donnons ou à un conseil de Dieu que nous lui donnons. Lorsqu'une personne ne suit pas les instructions que nous essayons de lui donner pour l'aider, ce qui devrait nous préoccuper le plus, c'est qu'elle n'obéit pas à Dieu. Ils désobéissent à Dieu. Pourquoi serais-je offensé? Ils offensent Dieu. Je ne vais donc pas le prendre personnellement ou essayer de ne pas le faire parce que le danger est de désobéir à Dieu. C'est ce qui s'est passé à la fin de la journée, au verset 13. Samuel alla vers Saül. Samuel a pleuré toute la nuit. Il est bouleversé, il doit maintenant annoncer la nouvelle, et Saül le voit arriver. Imaginez la scène. Saül le voit arriver, et avant que Samuel ne puisse sortir un mot de sa bouche, voici ce qu'il dit, « J'ai exécuté le commandement de l'Éternel. » Soit on lui a donné un travail très difficile à vendre et il s'est rendu compte de ce qu'il faisait, soit il n'en avait pas la moindre idée. Il n'en avait aucune idée. Dans un cas comme dans l'autre, au verset 16, Samuel répondit, « Reste, arrête-toi là. Tais-toi, si tu veux. Je vais te dire ce que le Seigneur a dit à propos de tout cela, et Saül lui dit, « D'accord. » Maintenant, il est sur ses talons. Samuel dit, « Quand tu étais petit à tes yeux, n'as-tu pas été établi chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour roi sur Israël ?» Verset 19. Pourquoi donc n'as-tu pas obéi? Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur, à son gouvernement, aux instructions que je t'avais données, et n'as-tu pas fait ce qui est mal à ses yeux? Samuel demanda, « Le Seigneur prend-il autant de plaisir à offrir des holocaustes et des sacrifices qu'à obéir à sa voix ?» Une question rhétorique. Qu'est-ce que Dieu préfère, à ton avis, les sacrifices et les holocaustes, ou l'obéissance ? Voici, laisse-moi y répondre pour toi car je veux toujours que tu gardes la bouche fermée, roi. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Verset 23, car la rébellion est comme la sorcellerie, et l'obstination comme l'iniquité et l'idolâtrie. Dieu n'a jamais changé sa position concernant l'obéissance et la désobéissance des personnes qu'il a appelées hors de ce monde et qu'il cherche à sélectionner, à choisir pour être membre de sa famille divine. Il n'a jamais changé sa position sur l'obéissance et la désobéissance. Elle n'a pas changé. Tout degré de désobéissance est une rébellion. Dieu compare la rébellion, une sorte d'équation, à la sorcellerie. Encore une fois, c'est une bonne chose pour la grâce. La grâce nous a été donnée pour que lorsque nous échouons, nous ayons une autre chance. Si nous échouons à nouveau, nous avons une autre chance, mais nous devons nous efforcer de devenir meilleurs et plus forts chaque jour. Utilisons la grâce que Dieu nous a donnée pour devenir meilleurs, pour devenir obéissants comme nous l'avons lu plus tôt. Nous en avons besoin. Christ n'en a pas eu besoin. Quant à l'entêtement, en matière d'obéissance, je vous dirai que ce n'est pas la seule cause, mais c'est une cause principale de désobéissance. L'entêtement, c'est toujours cela de pris. Ou l'obéissance feinte. Vous savez quoi? L'obéissance feinte, comme s'ils obéissaient, mais vous savez qu'ils font semblant. C'est un peu cette façon d'obéir parce que je vais mourir. Nous devons dépasser cela et nous verrons comment y parvenir. L'obstination, frère, est semblable à l'iniquité, à l'anarchie et à l'idolâtrie. Pourquoi résumer tout cela à l'idolâtrie? Pourquoi? Parce que la désobéissance montre à Dieu que nous idolâtrons les autres ou nous-mêmes ou nos propres opinions plutôt que ses commandements, qui il est. C'est pourquoi il s'agit d'idolâtrie. C'est pourquoi la désobéissance est si grave pour Dieu, assimilée à de la sorcellerie. Notez bien. Il est dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. J'espère que vous n'avez pas perdu la raison pour laquelle nous sommes arrivés ici. Prenons notre main ici et retournons, passons à Hébreux 10. Nous allons y revenir dans un instant, et nous allons aller au chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Vous vous souvenez qu'en Éphésiens 5, il est dit, « Soyez des disciples comme de chers enfants de l'obéissance. » C'est Éphésiens 5, comme Christ, qui s'est donné lui-même en offrande et en sacrifice. Hébreux 10, chapitre 5. J'y reviens souvent. C'est l'un des versets les plus étonnants et les plus révélateurs de toute l'Écriture. Il s'agit de la conversation que Christ a au moment où il vient dans le monde pour prendre forme humaine, et nous avons la possibilité d'écouter ce dont lui et le Père parlent. C'est extraordinaire. Au verset 5, c'est pourquoi, lorsqu'il vint, c'est-à-dire au présent progressif ou au passé progressif, dans le monde, il dit, « Vous ne voulez ni sacrifice ni offrande. » Pensez-vous que Christ connaissait les échecs de Saül? Bien sûr que oui. Mais tu m'as préparé un corps par des holocaustes et des sacrifices pour le péché, et tu n'y as pas pris plaisir. Tu n'y as pas pris plaisir. Puis il dit, voici, je viens. C'est Christ qui parle. Dans le volume du livre, il est écrit de moi. En d'autres termes, non seulement les Écritures sont écrites au sujet du Christ, mais elles incluent également l'obéissance qui devrait accompagner sa mission ici sur terre, en continuant, par ce qu'il est dit, de faire ta volonté. Je t'obéis, ô Dieu. C'est la conversation que Christ a eue avec le Père en venant dans le monde, en prenant une figure humaine. Verset 9. Alors Christ dit, voici, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Et ce faisant, il est dit, il a ôté la première pour établir la seconde. Verset 10, c'est par cette volonté, la volonté de Dieu, et par l'obéissance du Christ à cette volonté, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps du Christ une fois pour toutes. Frères et sœurs, nous ne sommes pas seulement rendus justes grâce à l'obéissance du Christ, nous sommes sanctifiés grâce à l'obéissance du Christ. C'est dire l'importance de l'obéissance. Ce qu'il a enduré par obéissance est époustouflant. Dans Luc 22, si vous vous souvenez de la prière du Christ, notez-la, Père, si tu veux. Il posait une question, il n'interrogeait pas Dieu, mais il posait une question. Nous y reviendrons. Si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Pouvez-vous imaginer que Christ ait décidé un seul instant de modifier le plan de Dieu et d'en proposer un meilleur? Nous ne serions pas assis ici. J'ai une meilleure idée de la manière dont nous pouvons y parvenir. Non, il a simplement posé la question. S'il y a un moyen pour que cela ne m'arrive pas, s'il te plaît, mais en fin de compte, je vais t'obéir parce que ma mission est l'obéissance. Je le ferai comme tu veux. C'est tout. Plus facile à dire qu'à faire, mais c'est la réalité. Toute autre forme de christianisme manque sa cible. C'était l'obéissance. La dernière ère de l'Église, comment s'appelle-t-elle? Laodicée. Les gens jugent, gouvernent et décident. En d'autres termes, ils n'obéissent pas à Dieu. Revenons à 1 Samuel 15 et reprenons. Au verset 24, Saül dit à Samuel, il prend conscience de ce qui s'est passé, ou du moins il admet qu'il savait ce qu'il avait fait, l'un des deux, j'ai péché car j'ai transgressé le commandement de l'Éternel, et prêté une attention particulière à la déclaration suivante. Je ne veux pas qu'on la passe à la légère, et tes paroles. J'ai désobéi à Dieu, mais j'ai désobéi à ce que son représentant a dit. Il en a compris le poids. Parce que je n'ai pas craint Dieu, mais le peuple, et que j'ai obéi à sa voix. Voici donc le résumé de toute cette partie du message. La question de ma vie n'est pas de savoir si j'obéirai. La question dans ma vie est de savoir à qui je vais donner mon obéissance ou à qui je vais donner mon obéissance. Il ne s'agit pas de savoir si j'obéirai, mais à qui j'obéirai. Nous n'avons pas le choix. Nous obéissons, d'une manière ou d'une autre. J'obéis à Dieu ou à quelqu'un d'autre. Je peux m'obéir à moi-même. Je peux obéir aux autres. Romains, chapitre 6, encore une fois, ce sujet est présent dans toute la Bible. Je vous l'ai dit, le chapitre 6 des Romains est le livre de l'obéissance, si vous voulez. Romains, chapitre 6, verset 16, ne savez-vous pas que celui à qui vous vous soumettez pour obéir, c'est à lui que vous obéissez, soit pour le péché, pour la mort, soit pour l'obéissance, pour la justice. Voilà, l'obéissance et la justice sont à nouveau liées. Chacun d'entre nous peut succomber aux attraits de ce monde, à la pression de plaire aux gens, et cette pression en brise certains. Elle peut briser n'importe lequel d'entre nous. C'est pourquoi nous devons tous être prudents et travailler dur à ce que nous avons à faire. Nous pouvons devenir comme Saül, même lorsque nous sommes dans l'Église. En tant que roi, il était censé dominer le peuple, mais de son propre aveu, c'est le peuple qui l'a dominé. Pourquoi? Eh bien, c'est ce qui est dit dans Romains 6. Il est devenu leur serviteur parce qu'il est dit ici qu'il a obéi à leur voix. C'est ce qu'il a dit à Samuel. Je n'ai pas craint Dieu. J'ai obéi aux voix du peuple. Je voulais les impressionner. Je voulais conserver leur soutien. Frères et sœurs, à quelle voix allons-nous céder dans notre vie? Ils nous poursuivent en permanence. Dieu nous a arrachés à ce monde, un monde dirigé par des gens qui sont prêts à tuer des bébés, des agags, si vous voulez, des dirigeants. Dans une société. Dieu nous a appelés à sortir d'une société comme les Amalécites qui veulent renverser l'autorité des parents qui sont prêts à abandonner cette autorité pour pervertir leurs enfants, les professeurs, les enseignants, les personnes influentes, les gens d'affaires, tous prêts à pervertir nos enfants. Dieu nous a appelés à sortir du monde parce que ce sont des voix que nous ne devrions pas écouter. Samuel a dit à Saül d'obéir simplement à ce que Dieu lui disait. Obéis à ce que je t'ordonne de faire, c'est tout, et tu seras bien avec Dieu. C'est aussi simple que cela. Maintenant, je vais faire une mise en garde dans tout ce message, et elle sera brève parce qu'il y a des gens imaginaires qui pensent, oh, monsieur Hook, est-ce que vous nous demandez d'être aveuglément obéissants? C'est une personne imaginaire, mais si vous recevez des conseils impies, de quelque manière que ce soit, de qui que ce soit, des conseils injustes, vous n'avez pas d'autre choix que de désobéir. Ce n'est pas grave. Il n'y a rien de mal à cela si c'est un conseil impie. C'est ce que les apôtres ont fait, comme vous pouvez le constater dans Actes 5, lorsqu'ils se tenaient devant le grand prêtre, le capitaine du temple et les chefs des prêtres, et qu'ils ont dit, « Nous devons obéir à Dieu. » Ils ne disaient pas, « Nous allons vous désobéir si vous voulez bien nous dire ce que Dieu veut que nous fassions, Nous le ferons, mais il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Il leur demandait de faire ce que Dieu ne voulait pas qu'ils fassent. C'est la seule mise en garde que je ferai, car l'obéissance est difficile. Elle demande des efforts. Voici ce qu'il faut pour que le reste du message devienne obéissant comme Christ. C'était sa mission. Ce devrait être notre mission. Première chose à faire. Voici ce qu'il faut. La justice, et je veux l'écrire de cette manière particulière parce que si vous revenez en arrière et que vous lisez les notes, je veux que cela vous parle. C'est parfois ainsi que j'écris les miennes. La droiture, l'obéissance droite consiste à écouter comme si j'étais sous l'autorité. Nous devons écouter comme si nous étions sous l'autorité. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. L'obéissance juste, c'est écouter comme si j'étais sous l'autorité. Hébreux 11. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, appelé à se rendre dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage, obéit, et il est écrit, et il partit sans savoir où il allait. Ce mot « obéir » est celui auquel j'ai fait référence tout au long du message. Il est utilisé 21 fois dans le Nouveau Testament. Il existe des variantes, obéissance, obéi, etc. Il s'agit du mot Strong's 52, 19 et il est composé de deux racines grecques. Le premier est upo, H-U-P-O. Vous savez ce que cela veut dire? Sous. Si je vous demandais de définir l'obéissance, c'est probablement, vous savez, peu d'entre vous y arriveront parce que j'en ai été étonné. Upo signifie « sous ». Le mot suivant en grec est « akouo », qui signifie « entendre ». Donc, si je disais « écoutez », vous pourriez dire « écoutez en dessous ». En d'autres termes, « écoutez-moi en tant qu'autorité », en tant qu'autorité. C'est ce que signifie le mot « obéir ». Il s'agit d'écouter comme si l'on était sous l'autorité d'un supérieur, d'un subordonné. Écouter attentivement. Implicitement, tenir compte d'un ordre ou d'une autorité ou s'y conformer. Écouter, être obéissant et obéir. Par définition, l'obéissance vertueuse consiste à écouter activement les autres et à poser des questions. Mais il n'y a rien de mal à poser des questions dans l'intention d'obéir. Nous avons parlé de la communication dans le message précédent. Lorsque nous communiquons, nous devons écouter avec l'intention d'obéir. Nous pouvons avoir des questions, c'est bien, mais nous posons des questions avec l'intention d'obéir, pas en posant des questions, c'est différent. Il y a une différence subtile. Mais il est parfois facile de détecter si quelqu'un s'interroge sur ce que vous voulez qu'il fasse ou s'il pose une question avec l'intention de faire exactement ce que vous voudriez que je fasse. Ainsi, l'obéissance, si nous pouvons apprendre d'Abraham, ne s'applique pas seulement après avoir reçu suffisamment de détails pour satisfaire nos préoccupations. Les détails sont agréables, mais ils ne sont pas nécessaires. Ils sont agréables et utiles, mais ils ne sont pas toujours nécessaires. Vous pouvez facilement dire quand quelqu'un n'écoute pas activement comme s'il était sous l'autorité. Frères et sœurs, ce n'est pas ainsi que nous pouvons être à la manière de Dieu. Nous voulons nous écouter activement les uns les autres, les personnes qui sont en autorité sur nous, en leur exprimant par notre écoute active que nous voulons servir. Nous voulons aider. Nous voulons obéir. Deuxièmement, l'obéissance vertueuse consiste à faire plus que ce qui m'est demandé. L'obéissance juste, c'est faire plus que ce qui m'est demandé. Nous allons nous tourner vers Philémon, à la fin de la Bible. La lettre de Paul à Philémon. L'apôtre Paul écrit cette lettre à Philémon au sujet de son ancien esclave Onésime. Je crois que j'ai bien compris. C'est une belle lettre. La façon dont Paul communique sa demande, et je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sous l'angle de l'obéissance, mais encore une fois, l'obéissance juste consiste à faire plus que ce qui m'est demandé. Au 8e verset, Paul dit, bien que je sois très audacieux en Christ pour vous enjoindre, ce mot enjoindre, ou cette phrase, vous savez ce que cela signifie? Cela signifie commander, ordonner. Il dit, je pourrais avoir l'audace, en tant qu'apôtre, de vous ordonner, de vous commander de faire ce que je vais dire, ce qui convient à tout le monde, même à vous-même, mais au verset 9, cependant, par amour, je préfère vous supplier, et nous allons voir pourquoi il a choisi cette méthode. Nous allons voir pourquoi il a choisi cette méthode. Parce qu'il y a des moments où il faut donner des ordres, des directives, mais Philémon était le genre de personne à qui il n'était pas nécessaire de donner des ordres ou des directives. Nous allons lire. Cependant, par amour, je préfère t'implorer pour, verset 10, mon fils Onésime. Puis Paul demande à Philémon de le recevoir, Onésime, comme s'il s'agissait de lui. Je ne veux plus que tu le considères comme un esclave. Je veux que tu le considères comme un frère. S'il te doit de l'argent, s'il a une dette, remets-lui cette dette. Je m'en occuperai si nécessaire. Le verset que je veux que nous regardions de près et que nous considérions dans nos propres vies, après que Paul a demandé tout cela à Philémon, il dit ensuite ce qui suit au verset 21. Confiant dans ton obéissance, je t'ai écrit. Confiant dans ton obéissance, je t'ai écrit. S'il a pu lui écrire, c'est parce qu'il avait déjà confiance dans l'obéissance de Philémon. Réfléchissez à cela. Il a pu écrire la lettre qu'il a écrite, et Dieu a permis que cette lettre soit enregistrée au sujet d'un esclave qu'il voulait récupérer. C'est une lettre émouvante quand on y pense. Il dit, Philémon, j'ai déjà confiance en ton obéissance. C'est le but de ce mode de vie, et il y a peu de gens qui le démontrent plus que toi, sachant que tu feras aussi plus que ce que je dis. Notre obéissance doit être semblable à celle de Philémon. Les gens doivent avoir confiance en notre obéissance, comme Paul avait confiance en l'obéissance de Philémon. Je veux que les gens qui interagissent avec moi aient confiance dans le fait que je peux être obéissant, en toute justice. Les personnes que nous servons savent-elles que lorsqu'on nous demande de faire quelque chose, nous nous efforçons de donner le meilleur de nous-mêmes, quoi qu'il en soit? Les gens ressentent-ils cela? Ont-ils confiance en eux? Même si on nous demande beaucoup, nous efforçons-nous de dépasser les attentes? Donnez-moi plus. Je vais travailler dur pour cela aussi, et je vais essayer de dépasser vos attentes, ce qui m'amène au point suivant de la liste. Romains, chapitre 6. L'obéissance juste se fait avec sincérité, avec mon cœur. Romains, chapitre 6, verset 17. Que Dieu soit remercié de ce que vous n'avez pas été esclave du péché, mais que vous avez obéi de tout cœur à la doctrine qui vous a été donnée. Encore une fois, nous pouvons revenir aux choses précédentes que vous avez toutes écrites sur vos cahiers. L'amour, la foi, la justice, la vie éternelle, tout cela implique une certaine forme d'obéissance, mais une obéissance de cœur. Dieu merci, nous pouvons obéir par le cœur, à partir de notre cœur, car nos actes d'obéissance doivent être l'expression de notre dévotion à Dieu en vérité. Permettez-moi de le répéter. Nos actes d'obéissance sont l'expression de notre dévotion à Dieu et à ses vérités. Ces doctrines, toutes celles que vous choisissez dans l'Église, ne peuvent exister que parce que nous obéissons à ce que Dieu dit. Nous pouvons feindre l'obéissance au commandement de Dieu. Nous pouvons simuler le commandement de nous aimer les uns les autres. Nous pouvons faire semblant d'avoir la foi, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Dieu ne donnera son Saint-Esprit, écoutez ceci, Qu'est-ce qui quoi? Lui obéissent. C'est ce qui est dit. L'une des façons d'exercer le Saint-Esprit est d'obéir, car la mission du Christ était d'obéir. Que pensez-vous que Dieu veuille accomplir en nous en voyant son Esprit? L'obéissance parce qu'il nous a appelés à sortir de ce monde pour une chose et une seule, lui obéir. Cela prend toutes ses formes dans la façon dont nous vivons notre vie. La vie chrétienne. De même, les gens qui font semblant finissent par se planter. On peut sentir quand quelqu'un est vraiment dévoué à ce qu'il fait, n'est-ce pas? C'est une sorte d'impression. Ils aiment vraiment ce qu'ils font. Ils fournissent sincèrement des efforts. D'un autre côté, on peut sentir quand quelqu'un va, il ne se donne pas à fond. Réfléchissez au dernier point. Je préfère avoir quelqu'un qui essaie de dépasser ce qu'on lui demande par volonté d'obéir et qui commet une erreur, plutôt que quelqu'un qui se contente de faire ce qui est suffisant, de se conformer à ce qu'on lui demande. Tu m'as demandé de faire ceci, j'ai fait cela. Je peux faire face à une erreur si elle provient d'un désir d'obéissance et de dépassement et de faire plus que ce qui a été demandé. Nous pouvons corriger cela. Ce qui est plus difficile à corriger, c'est une personne qui veut simplement le faire, mais qui n'a pas vraiment le cœur à l'ouvrage. Il le fait juste pour le faire. Je ne dis pas que quelqu'un fait cela ici, mais c'est une chose à laquelle nous devons faire attention, quelle que soit la tâche que nous accomplissons dans l'Église de Dieu, quel que soit notre emploi. Éphésiens 6 au verset 5. Verset 5 Éphésiens 6. Serviteur, employé. On peut utiliser le terme d'employé. Obéissez à ceux qui sont vos maîtres, vos patrons selon la chair, avec crainte, tremblement et sincérité. Ce mot signifie sincérité, de votre cœur comme à Christ, non pas pour le service des yeux, comme des hommes qui se plaisent, essayant de se promouvoir, essayant d'obtenir une promotion, mais comme des serviteurs de Christ, faisant la volonté de Dieu du fond du cœur. Et encore, avec bonne volonté, rendant service au Seigneur et non aux hommes. Frères et sœurs, la plupart des gens ont un travail dans ce monde parce qu'ils y sont obligés, parce qu'ils veulent quelque chose ou parce qu'ils ont besoin de payer des factures, de manger. C'est très bien. Ce sont des raisons pour lesquelles nous devrions travailler. Si nous voulons manger, nous devons travailler. Cela ne fait aucun doute, mais pas pour nous. Ce n'est pas possible. Oui, nous devons manger. Nous devons payer nos factures. C'est pour cela que nous avons un travail, mais ce n'est pas ce qui doit nous motiver. Nous travaillons avec crainte et tremblement comme pour Christ, parce que nous voulons être obéissants comme lui. Nous voulons avoir l'attitude qu'il a eue. Nous devrions être remarqués sur nos lieux de travail en raison de nos efforts sincères pour être des employés productifs. Quand ils regardent, cet individu a le cœur à l'ouvrage, ou son cœur à l'ouvrage. Il veut que nous réussissions en tant qu'entreprise. C'est ce qui nous distingue du reste du monde. Ce sont des enfants de l'obéissance. L'obéissance juste, ensuite, exige que j'aie une attitude de soumission. Tout cela est lié. Il se chevauche. Frères et sœurs, l'obéissance est vraiment une question d'attitude. C'est une question d'attitude. 2 Corinthiens, chapitre 10. 2 Corinthiens, chapitre 10. Alors que nous commençons à conclure ici, 2 Corinthiens, chapitre 10 et verset 3. Car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Cinquièmement, renverser les imaginations et toute hauteur qui s'élève dans notre esprit contre la connaissance de Dieu, et ramenez toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Frères et sœurs, notre combat pour devenir obéissant comme Christ commence ici, dans l'esprit. Les pensées charnelles, les pensées de désobéissance sont alimentées par l'entêtement. Les pensées charnelles de désobéissance ne sont pas seulement alimentées par l'entêtement, mais elles sont protégées par l'autosatisfaction. L'autosatisfaction dans notre imagination parce que personne n'est juste, pas un seul. Toute pensée de désobéissance, toute attitude, doit être ramenée à l'obéissance du Christ. Qu'il s'agisse de l'exemple qu'il a donné, ou de prendre littéralement cette pensée et de dire « Je te la soumets, Christ, prenez-la comme vous voulez. » Lorsque nous pensons à l'obéissance du Christ, ces pensées commencent tout à coup à diminuer. Nous les avons mises en captivité sous l'obéissance du Christ parce que ce type de pensée est rebelle. Ce n'est pas vraiment de la soumission. Ce genre de choses nous exalte en fait dans notre propre esprit. Nous nous élevons dans notre propre esprit lorsque nous pensons que nous savons mieux, que nous pouvons mieux faire les choses. Non, c'est bien d'avoir de meilleures idées, mais quand cela conduit nos attitudes, nous pouvons ne pas être à la hauteur de ce que Dieu veut. Quatrièmement, l'obéissance juste ne doit jamais s'arrêter dans ma vie. Philippiens, chapitre 2. L'obéissance juste ne devrait jamais s'arrêter dans ma vie. Philippiens, chapitre 2 et verset 12. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais bien plus encore en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Je vais énoncer une évidence ici. L'obéissance au Christ, celle que nous nous efforçons d'obtenir, ne se manifeste pas seulement lorsque nous sommes à l'office avec d'autres frères. Certes, c'est pour cela qu'elle doit être affichée, toutes les choses dont nous avons parlé, mais l'apôtre Paul met au défi chacun d'entre nous d'obéir toujours, surtout quand les ministres et les autres frères ne sont pas là. Le cinquième, le dernier, l'obéissance vertueuse implique que je doive souffrir. L'obéissance vertueuse implique que je doive souffrir. Nous allons revenir à notre point de départ. Hébreux 5. Beaucoup d'entre vous ont probablement continué à lire, mais je me suis arrêté intentionnellement pour pouvoir terminer ici. L'obéissance juste implique que je doive souffrir, au verset 8. Bien que fils, il a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a endurées, et, devenu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. C'est le but. L'obéissance. L'obéissance est facile quand les choses vont bien, mes frères. Lorsque cela correspond à la façon dont vous pensez que les choses devraient être faites, l'obéissance est facile, mais apprendre l'obéissance, cela demande souvent de la souffrance. Christ a appris, comprend et apprécie ce qu'il faut pour être obéissant en tant qu'être humain. Il y a beaucoup de choses qui m'impressionnent à propos de Dieu et de Jésus-Christ, mais Christ en tant qu'être humain apprenant l'obéissance pour que nous puissions apprendre de son exemple et devenir obéissants comme lui pour faire partie de la famille de Dieu, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui lui soit comparable. Si vous regardez la vie de Paul, ses souffrances, je pense que dans le livre des Actes, il y a 24 fois qu'il a souffert pour obéir à l'Évangile. L'apôtre Paul, les apôtres. La vie éternelle est en jeu, comme il est dit ici dans Hébreux 5, 8, et elle a tout à voir avec l'obéissance au Christ, à son exemple. Frères et sœurs, l'obéissance est le meilleur moyen de révéler notre foi. L'obéissance est la seule manière d'exprimer au mieux son amour. C'est par l'obéissance que nous conservons le don de la justice et de la sainteté. Le pardon est accordé à ceux qui obéissent au commandement de Dieu, qui s'efforcent même lorsqu'ils échouent. Ils se repentent, surtout lorsque nous reconnaissons que tout péché est un acte de désobéissance envers Dieu. Tous les aspects de notre christianisme, ce mode de vie, sont liés à l'obéissance. Notre appartenance à la famille de Dieu en dépend. Notre salut et notre sanctification dépendent de l'obéissance du Christ. Frères et sœurs, l'obéissance était la mission du Christ. Il l'a apprise et l'est devenue. Nous le pouvons aussi.